C'est la radio éphémère du festival et comme tous les jours à 13h, on fait une petite discussion autour des micros. Hier, c'était au sujet de la musique alternative, vendredi, au sujet de la représentation des musiques du monde dans les médias. Et aujourd'hui, on va parler de la diffusion des musiques, alors un petit peu plus dans le futur, enfin on se met à la page. Avec pour discuter de cette petite introduction sur la diffusion des musiques, dans l'ordre autour de la table, Daniel Faucon de la NURPA.
Bonjour.
Qui va nous expliquer tout à l'heure ce qu'est la NURPA, avec Isabelle Schmitt de la SABAM qui nous expliquera aussi ce que c'est que la SABAM.
Bonjour.
François Moget de Mondomix.
Bonjour.
Bonjour. Et Ludo, qu'on a déjà entendu hier.
Bonjour.
De
la Libertech.
La Libertech, pour pas que je fasse Étienne qu'animera ce débat. J'excuse d'ores et déjà Jacky Morel, sénateur écolo, qui était prévu sur cette discussion et qui n'a pas pu venir pour des petits problèmes de santé et qui a annulé en dernière minute ce matin. Mais je pense qu'il va être présent en fond de tâche, comme on dit informatiquement parlant, il a contre-proposé une loi. Je voudrais d'abord juste qu'on fasse un petit tour de table pour représenter vos institutions, associations et médias respectifs. Daniel Faucon, la NURPA, c'est quoi ?
NURPA, N-U-R-P-A, pour Net Users Rights Protection Association, acronyme anglais vu qu'on est dans un pays bilingue, enfin même trilingue, on l'a fait tout remarquer. En français, Association de Protection des Droits des Internautes. Donc on s'est créé en réaction à la loi Hadopi que François Miller défend actuellement. Il y a à peu près 2 ans, et depuis on a défendu des points de vue très similaires et des méthodes très similaires de la Quadrature du Net en France pour ceux qui connaissent.
Isabelle Schmitt, la SABAM, c'est quoi ?
Donc la SABAM est une société privée de gestion collective de droits d'auteur, donc qui représente à la fois donc les auteurs, les éditeurs donc et les compositeurs. Il s'agit d'une société pluridisciplinaire qui est active donc dans diverses disciplines, aussi bien la musique, l'audiovisuel, la littérature et encore d'autres choses. Et notre mission principale consiste à percevoir et répartir la rémunération des artistes.
François Moget, Mondomix.
Alors Mondomix, c'est un média qui a une dizaine d'années, qui est français, même s'il est un petit peu distribué en Belgique, mais pas suffisamment pour l'instant. Donc c'est un média qui parle essentiellement des musiques du monde, mais qui s'intéresse à beaucoup de choses. Média à la fois papier, un magazine papier qui sort tous les 2 mois, et puis un site web sur lequel on a une petite partie qui vend en téléchargement des fichiers MP3, et je suppose que c'est pour ça que nous avons été invités ce matin.
Ludo, la Libertech.
La Libertech, eh bien, c'est un réseau de diffusion de musique libre. C'est liégeois principalement, mais ce sont des musiques du monde et de Liège. Donc c'est l'occasion de faire une grande playlist avec toutes ces musiques libres et d'y insérer nos artistes liégeois. Tout ça, la plupart du temps, en licence Creative Commons.
Alors si on vous a tous invités autour de la table, c'est parce que on se rend tous bien compte... quand on fait de la radio, quand on est mélomane, quand on est auditeur de radio aussi, que le monde de la diffusion de la musique a quelque peu changé il y a maintenant une dizaine d'années, notamment avec ce qu'on appelle la crise du disque, que les formats de diffusion vont changer, sont en train de changer. Et donc on se posait ici, nous, la question, c'est quoi le futur pour cette diffusion de la musique, surtout que nous, on en diffuse pas mal ici dans la radio du festival. Et que sont apparus en réponse aussi à un nouveau moyen de diffusion qui est Internet, des lois comme celle d'Aldopi en France, hein, tout à l'heure on va en discuter, pour la France, et donc une Hadopi, on va l'appeler comme ça, à la Belge, proposée par Monsieur Miller, et une contre-proposition à cette loi, ou en tout cas un allègement de quelques dispositions de cette loi faites par le sénateur, notamment Jacky Morel, qui devait être parmi nous aujourd'hui. Je vais peut-être donner la parole à Daniel Faucon qui peut-être nous recontextualise tout ça.
Pour répondre à ta question, ce qui a changé récemment, ce qui a engendré la crise du disque, ce qui est à l'origine de la raison de notre présence ici, c'est principalement l'arrivée d'Internet, et avec Internet, ce qu'on appelle la dématérialisation des œuvres, c'est-à-dire qu'avant, pour se produire musicalement, de façon, enfin, pour un film, une série, quoi que ce soit, pour atteindre un public, il fallait presser des disques, il fallait passer à la radio, il fallait faire ceci, cela, tous des moyens de diffusion qui avaient un coût assez important et qui, depuis Internet, sont devenus plus ou moins, enfin, pas gratuits, mais virtuellement gratuits. C'est-à-dire qu'actuellement, sur Internet, ce que cette dématérialisation a apporté, c'est la possibilité pour tous les artistes, quelle que soit leur taille, de se produire avec des coûts de production très restreints, des coûts de diffusion quasiment nuls. Et avec ces coûts de diffusion quasiment nuls, non seulement un investissement beaucoup moins important à faire pour se produire, mais en plus un public potentiel beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'avant, quand on se battait pour avoir une diffusion nationale, voire européenne, grâce à Internet, on peut instantanément, pour peu que le site soit en anglais et que assez de gens se le partagent et en parlent, avoir une diffusion mondiale du jour au lendemain, ou en une semaine avoir le public maximal qu'on pouvait espérer toucher, alors qu'avant on dépendait des limitations matérielles de diffusion des disques, des diffusions hertziennes de la radio et de la diffusion nationale de chaînes de télévision, etc.
Alors, ça c'est une vision. Est-ce que vous êtes tous d'accord autour de la table avec cette vision des choses, Isabelle Schmitt de l'ASABAM?
Donc en fait, c'est vrai que le marché du disque se réduit, donc la crise du disque est un constat. Le marché européen de la vente de musique a connu donc une chute de plus de la moitié de son chiffre d'affaires en moins de 10 ans. Les droits liés donc aux ventes de supports physiques perçus donc par l'ASABAM ont baissé de plus de 60% donc entre 2002 et 2009.
Donc on rajoute à ça que l'ASABAM est en crise en quelque sorte, elle subit la crise du disque.
Disons aussi donc que oui, effectivement, donc on l'a subi. À cela donc il faut encore ajouter donc la piraterie donc frappe aussi bien donc les grands donc les petits labels, mais j'y reviendrai. Et puis donc il y a aussi donc un autre problème, c'est que et ça concerne peut-être plus particulièrement les petits labels, c'est que donc les grands labels donc qui faisaient des profits donc plantureux donc auparavant vendent beaucoup moins de disques et génèrent donc moins d'argent. Or cet argent donc servait donc à prendre des risques sur des plus petits artistes, et donc maintenant avec la crise c'est moins le cas. Dès lors donc il y a un problème donc pour ces petits artistes donc qui souhaitent émerger, ils doivent trouver donc d'autres formules, d'autres moyens donc que les firmes classiques pour pouvoir donc se promouvoir, et ils se dirigent donc vers d'autres modes de diffusion sur Internet notamment, donc comme par exemple des sites comme My Major Company qui font des bandes annonces où les internautes payent par exemple des mises donc pour un projet donc artistique. Donc les internautes deviennent donc quelque part un petit peu actionnaires donc de ce type de projet.
Ça fonctionne ce genre de schéma vraiment?
Je pense que ça peut fonctionner donc effectivement donc pour des petits artistes, et donc de grandes firmes de disques ne jouent plus donc quelque part donc le même rôle donc qu'auparavant, et donc c'est effectivement donc un nouveau mode de distribution, mais ça leur permet surtout donc d'éviter donc d'investir donc à risque. Et puis donc il y a encore une troisième chose, c'est que la crise aussi donc génère moins d'espèces donc dans les magasins donc au niveau de la vente de disques, et le nombre de magasins donc en soi diminue, ce qui veut dire aussi donc que ces grandes enseignes doivent donc pour être rentables donner donc en fait parfois donc la place donc plus donc aux grands artistes donc aux petits, donc là encore une fois donc les petits labels donc généralement donc se voient donc défavorisés.
François?
Oui, je trouve très beau je trouve très belle la description d'Internet, formidable outil de démocratisation culturelle et de liberté. Internet a tous, je pense que tous autour de la table, Internet effectivement a changé nos vies en bien pour beaucoup de choses en termes de communication, etc. Reste qu'aujourd'hui, on voit se constituer sur Internet ce qui s'était constitué avant dans le monde du disque physique réel, c'est-à-dire de très grosses sociétés qui finissent par obtenir des positions dominantes qui sont celles des grosses sociétés d'autrefois, des major compagnies du disque. Aujourd'hui, c'était peut-être vrai qu'un artiste pouvait, il y a, je sais pas, 7-8 ans, grâce à Internet, se faire découvrir dans le monde entier, etc. Il y a eu quelques exemples. Mais en fait, des exemples assez rares. Et aujourd'hui, on voit se constituer d'énormes sociétés qui sont à peu près l'équivalent de ce qu'étaient les majors du disque il y a quelques années, et qui sont devenues incontournables, sur lesquelles tout le monde va, et finalement qui commercialisent leur place, qui commercialisent leur place sur la homepage, la page d'accueil. Voilà, on a gagné en liberté, certes, mais c'est pas non plus le paradis utopique.
François Mauger de Mondomix, quels sont ces nouveaux poids lourds justement de la musique sur Internet?
Bon, on les connaît tous, puisqu'on on y va tous. Hein, pour les vidéos, c'est YouTube. En France, nous on a toujours, mais ils sont en train de modifier leur système. C'est un site d'écoute gratuite en streaming qui s'appelle Deezer, qui est en train de changer son modèle économique. Je connais pas sa contrepartie belge. Peut-être que Deezer opère également en Belgique. J'imagine que oui.
Je sais pas à quel point les offres de Deezer sont disponibles en Belgique. Oui. Vu que j'utilise pas ce service.
D'accord. Mais ils doivent effectivement avoir des problèmes de légaux avec les maisons de disques pour la diffusion en Belgique. Mais voilà, on connaît tous les services. Facebook, etc. Voilà, on va tous sur les mêmes services en fait. C'est pas la peine d'en faire la liste. On les utilise tous.
Quand moi, utilisateur, je regarde de la musique sur YouTube, je ne paye rien. Pourtant, il y a beaucoup de revenus derrière qui sont générés par ce genre de trafic.
Alors, ami utilisateur, tu regardes un clip, je pense qu'ils ont le temps de te caser 4 ou 5 pubs sur le clip que tu regardes. Et donc, voilà, tu n'as rien payé, effectivement, mais tu as avalé du message publicitaire. Et c'est comme ça que YouTube se rémunère, et plus au bien.
Du temps de cerveau disponible.
Voilà, tu as prêté ton cerveau disponible, plus ou moins longuement, et on t'en a remercié.
Pour rebondir sur le sujet de YouTube et des rémunérations via YouTube, pas forcément YouTube, vu qu'ils ont tellement de visiteurs qu'ils reversent très peu aux artistes qui sont sur YouTube, mais il y a quelques exemples sur thatguywiththeglasses.com de personnes simplement qui ont commencé à faire ce qu'on appelle des vidéoblogs, c'est-à-dire donner leur avis sur des films, donner des points de vue intéressants sur des jeux vidéo, sur l'actualité, sur ceci ou cela, un peu du journalisme à l'internet, et qui petit à petit ont acquis assez de visiteurs et de visionneurs de leurs vidéos sur les services comme Blip.tv pour ne faire que ça, c'est-à-dire que ils font 6 ou 7 vidéos par mois, une ou deux par semaine, et avec assez de visiteurs, c'est-à-dire à peu près 10 000, qui sur Internet sont pas très difficiles à acquérir quand on fait bien son style, ils vivent de ça, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, ça a été leur job de faire des vidéos sur Internet, et grâce à ce système de visionnage où les gens ne payent rien, mais le fait qu'ils cliquent et qu'ils voient les pubs rémunère les artistes, est viable et fonctionne pour certains artistes depuis 3 ou 4 ans.
Alors, on avance un peu dans cette discussion. Il a fallu apporter des réponses. Ça dépend à qui, mais en tout cas à des majors. Vous le disiez tout à l'heure, les grandes industries du disque ont perdu énormément d'argent avec la crise du disque.
J'aimerais réagir là-dessus d'ailleurs.
Oui,
si
oui,
c'est possible,
je vais juste avancer un petit peu sur la loi Dopi. J'aimerais qu'on en parle puisque c'est une des réponses des pouvoirs publics sur le fait que beaucoup de musiques sont disponibles ici, d'ailleurs en Belgique. Au passage, la communauté française fait une campagne qui s'appelle « Télécharge avec ta tête ». On pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Vous parliez de piraterie tout à l'heure.
Je pensais
que ça se situait juste en Somalie, mais on va pouvoir en discuter aussi. Et donc la réponse française, mais ça je voudrais juste entendre François là-dessus, parce que tu viens de France, François. C'est quoi la loi Hadopi en résumé? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on fait face au téléchargement dit illégal?
C'est une loi, c'est pas, ça commence à s'appliquer uniquement maintenant. C'est extrêmement compliqué et c'est le résultat d'un débat totalement malhonnête. Et c'est un peu le souci qu'on va probablement avoir autour de cette table, c'est que chacun va défendre, et pour ce débat-là, ce débat parlementaire qui a abouti à cette loi, chacun défend son précaré. De façon pas tout à fait honnête, c'est-à-dire en caricaturant. Alors les major compagnies, c'est au secours, on assassine la création musicale. C'était nous qui la portions, la création musicale, avec les gros artistes. On faisait vivre les petits artistes. Vous comprenez pas ce qu'on est en train de perdre là. C'est la voilà. Et puis de l'autre côté, les utilisateurs du web qui disent attendez, mais c'est la liberté, c'est formidable. On est dans un champ de pâquerettes, tous égaux, tout nus, en train de courir. C'est magnifique. On a eu un débat très caricatural, des lobbies assez forts à l'époque sont intervenus, et la décision qui a été prise, c'est effectivement de faire porter la charge aux citoyens, de lui dire attention, quand il y a téléchargement illégal, donc piraterie pour utiliser le terme, quand il y a téléchargement illégal, c'est votre faute, vous en êtes responsable, c'est à vous de sécuriser votre ligne. Comment, c'est même pas clair, parce que pour l'instant la Dopi n'arrive pas à se mettre en place et à dire quelles sont les offres légales et comment sécuriser sa ligne. Ça, pour l'instant, vous pouvez ennuyer la Dopi en leur demandant mais comment je vais sécuriser ma ligne, ils savent pas répondre pour l'instant. Mais donc l'idée a été de dire c'est le citoyen qui est responsable,
Voilà.
Donc on a déplacé en quelque sorte, enfin, en tout cas en France, le point de vue, c'est l'utilisateur qui doit être responsable et se responsabiliser.
Tout à fait.
On sent bien ici en Belgique, hein, puisqu'il y a une campagne dite pédagogique par la communauté française, télécharge avec ta tête. Sous-titre téléchargement légal, on sent bien aussi qu'il y a, une proposition de responsabilisation des citoyens. Ça, c'est pour la version officielle. Je pense que la NURPA, par exemple, je suis allé voir votre site internet hier, il y a pas mal de réactions vis-à-vis de ça, puisque, donc, comme vous le rappeliez, Daniel,
oui.
il y a une proposition d'Adopi en Belgique, pour le contexte belge.
Techniquement, c'est le cas, mais en réalité, ce n'est plus vraiment le cas. En fait, pour resituer cette loi Adopi actuellement, elle avait d'abord été proposée dans un premier temps par le MR il y a 2 ans, et c'était vraiment une inspiration très claire de la riposte graduée française. Mais dernièrement, se rendant compte que même les majors et même la SABAM ne réclamaient pas cette riposte graduée, Richard Miller a supprimé une douzaine d'articles de sa loi où il retire en fait toute la répression et ne garde que quelques articles qui restent nocifs mais qui n'attaquent plus l'utilisateur et le citoyen par rapport à ce qu'il fait sur Internet.
Alors avant que je donne la parole à Isabelle Schmitt, on sent bien que du point de vue belge, la loi française est un échec complet, puisque on sent bien que même des gens qui avaient pensé faire la même loi, en lorgnant un petit peu de l'autre côté de la frontière, se disent bon, on va peut-être jouer la chose différemment.
Du point de vue français aussi, c'est un échec complet. Pour l'instant, la loi a été votée, je me souviens plus de la date exacte, mais ça fait à peu près 2 ans. Les premiers mails d'avertissement sont partis il y a à peine quelques mois. L'organisme a été très très long à se mettre en place. Et,
très très cher aussi.
Très très cher. Ne fonctionne toujours pas parce que, par exemple, il n'est pas capable d'indiquer les solutions de sécurité à préconiser. Parce qu'en fait, l'un des problèmes, c'est qu'il va déterminer que sur telle ligne, il y a eu téléchargement, mais il ne va pas pouvoir dire précisément qui sur cette ligne a téléchargé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cas des lignes partagées? Enfin, voilà. Pour l'instant, les solutions de sécurité ne sont pas encore en place. Et oui, de l'avis général, c'est surtout une loi qui a 4 ou 5 ou 6 ans de retard. C'est-à-dire que les pratiques ont tellement évolué aujourd'hui que là, elle est en train de défendre quelque chose auquel on ne reviendra plus. Ça.
Isabelle Schmitt, on sait qu'en France, la SACEM est un des principaux lobbies concernant la loi Adopi. C'est différent pour la SABAM, c'est-à-dire qu'on prend fait et cause de l'échec d'Adopi en France.
Mais disons que c'est vrai que la piraterie donc a pris donc une dimension donc inquiétante dans le domaine de la propriété intellectuelle. Donc parallèlement donc le marché du disque est en souffrance comme on l'a dit, mais il n'y a pas un nombre infini de solutions donc pour faire en sorte donc que les auteurs soient rémunérés pour leur travail. Donc la manne bénéficiaire donc que certains grands acteurs du système, dont tels que les fournisseurs d'accès donc à Internet, retirent de la circulation des œuvres en ligne est très importante. Donc celle que la SABAM préconise est de demander donc aux fournisseurs d'accès de bloquer donc les contenus protéger et pour cela de filtrer donc le trafic. Alors plusieurs voies donc sont possibles. La voie judiciaire qui a déjà donc été utilisée par la SABAM et qui est encore possible dans le futur. La voie de la négociation mais qui prend du temps. Donc on espère toujours manquer un accord donc général donc avec les télécoms. On a de bons contacts avec certains d'entre eux. Et puis donc il reste encore la voie législative. Donc comme on l'a expliqué, les télécoms donc intellectuellement donc sont d'accord donc avec notre proposition. Des politiciens ont commencé donc à déposer donc des propositions, mais il faut savoir que notre position donc se distingue donc de celle de la licence globale et d'Adopi.
On va y revenir, hein, la licence globale, je dis ça pour nos auditeurs.
D'accord.
Pour qu'on mette de côté certains concepts, voilà, qu'on va développer parce que c'est un petit peu compliqué de prime abord.
Voilà, mais pour nous, donc en fait, Adopi a tout de même le mérite de dire qu'on peut collecter des données, être alimenté donc en matière de documentation, mais c'est vrai qu'on a reçu donc plusieurs informations provenant de notre société sœur française concernant les résultats de la loi Adopi et l'impact d'Adopi donc sur le piratage n'est pas vraiment mesurable. En plus, donc, il faut savoir donc, que c'est un système donc, qui était limité donc, à un certain nombre d'œuvres. Disons qu'Adopi concerne plus ou moins 10 000 œuvres. Il faut savoir que le répertoire de la SABAM comprend plus ou moins 40 millions d'œuvres.
Alors, je vous entends parler de filtrage, de voies judiciaires. J'ai l'impression que ça s'oppose parfois à la vie privée. Il y a un principe qui est défendu par la NURPA et aussi par la Quadrature du Net en France, qui est celui de la neutralité du net.
Absolument.
Voilà, donc je pense qu'on pourrait déjà expliquer à nos auditeurs et auditrices quel est ce principe qui n'est pas encore reconnu, hein, soyons clairs.
Il y a des propositions.
Il y a des propositions, mais c'est pas encore très... clair, en tout cas d'un point de vue législatif. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité du net ?
La neutralité d'Internet, en fait, c'est l'idée de respecter et de préserver le principe fondamental d'Internet, qui est en fait que tout le monde, partout dans le monde, va pouvoir avoir accès à la même information sans discrimination. C'est-à-dire que moi, j'ai accès à la même page Wikipédia ici en Belgique que en Chine. Par exemple, c'est quelque chose qui est très souvent mis à mal. Par exemple, en Chine, essayer d'aller sur la page Wikipédia de Tiananmen. J'ai des amis qui l'ont essayé, leur connexion s'est coupée mystérieusement. Mais c'est un point très important d'Internet qui le différencie de tous les autres médias de diffusion. Et donc, l'idée derrière, pour comprendre plus concrètement ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet, sur lesquels on frappe régulièrement, parce qu'ils sont le principal intermédiaire technique entre soi, à sa maison, son ordinateur et Internet, c'est que le fournisseur d'accès à Internet est en fait... uniquement responsable, son job est uniquement de vous relier au réseau. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il gère, c'est un câble qui va de votre maison au réseau. Et son boulot, c'est que le débit soit suffisant, que les conditions soient suffisantes. Mais lui n'a pas accès, n'a pas d'influence sur le reste du réseau en aval. Donc lui est juste là pour gérer le câble. Donc ça, c'est un problème qu'on a avec le filtrage. C'est-à-dire qu'on le rend responsable du réseau qui ne contrôle pas.
Et on s'y responsable avec, du contenu, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors que lui, tout ce qu'il fait, c'est donner accès à une plateforme, à un réseau, pas au contenu en particulier. On peut pas prendre tous les contenus du monde et accuser le fonctionnaire d'accès à Internet d'y avoir donné accès individuellement. C'est pas raisonnable. L'autre problème du filtrage, c'est que c'est une mesure techniquement inapplicable, qui ne fonctionne pas et qui coûterait très cher. C'est-à-dire qu'un filtrage, c'est un peu comme mettre un mur en béton en plein milieu d'un champ. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de manières de le contourner. Sur Google, il suffit de taper « contourner filtrage » et il y aura 5000 résultats pour montrer même aux gens les plus débutants sur Internet comment détourner tout le type de filtrage. Et c'est une mesure qui, en général, je suis étonné de t'apprendre qu'ils sont d'accord, mais qui ne plaît pas aux fournisseurs d'accès Internet parce que ça leur coûterait très cher à implémenter pour un résultat inefficace et qu'il faudrait de toute façon trouver une autre solution après l'avoir implémenté et se dire « on a dépensé tel million, tel milliard pour rien, on va retourner au plan et retrouver une nouvelle idée. »
Isabelle Schmitt.
En fait, ce que je voudrais dire, c'est que...
De la SABAM, je rappelle.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, je voudrais quand même dire, donc, on a eu donc, plusieurs discussions donc, avec des télécoms, et concernant donc, la question du filtrage, il faut dire qu'à plusieurs reprises, on nous a dit que techniquement, c'était faisable. Donc, je suis effectivement donc, étonnée d'entendre la NURPA dire que ça n'est pas techniquement faisable.
Il est possible de mettre en place un filtrage qui sera détournable très facilement. C'est ça le principe, en fait.
C'est d'ailleurs ce qui se passe un peu avec Adopi en France, non ? Ou alors j'ai tout faux là.
Exactement, oui, c'est-à-dire que non seulement les gens les gens qui partagent les fichiers ne sont pas systématiquement répertoriés, mais en plus il y a une très forte probabilité de faux positifs. On peut tout simplement injecter des fausses adresses dans les.
Est-ce que ça coûte pas très cher de l'organiser aussi ce filtrage ?
Absolument, techniquement et de façon organisationnelle c'est très coûteux.
Isabelle Schmitt, ça coûte cher.
D'organiser
un filtrage.
Ça, c'est la responsabilité donc, des fournisseurs d'accès. Enfin, je veux dire, ça, c'est leur modèle, donc enfin, c'est leur responsabilité.
Donc, on voit bien là le déplacement. Hein. On a d'un côté Adopi à la française, où on responsabilise très très fort l'utilisateur du réseau. Et ici en Belgique, et ça nous permet d'aborder le principe de licence globale, on déplace la suspicion, on va dire, sur le fournisseur d'accès Internet, le FAI, comme on dit en langage geek. FAI qui réagit comment en Belgique aux propositions à la fois d'écolo, à la fois du MR, puisque j'imagine que tout le monde ici se donne la main et dit « Ok, on y va pour la licence globale ». J'apprends que la SABAM est d'accord.
Pardon ?
La SABAM est d'accord sur la licence globale ?
Disons qu'on a on pense que c'est une proposition donc elle mérite d'exister parce que bon, ce sont aussi donc les premiers donc qui se sont intéressés donc à la remise en question de la responsabilité financière des fournisseurs d'accès.
Donc qui dit responsabilité financière, pour faire court, la licence globale propose de faire payer le téléchargement illégal au FAI par une petite taxe qu'on retrouverait
ça dans... Ça n'est pas une taxe. Enfin, c'est vrai que dans la licence globale, on pourrait plus dire que c'est une taxe, mais la SABEM n'est pas en faveur d'une taxe. La SABEM n'est pas habilitée, donc il n'y a que l'État qui peut percevoir donc une taxe.
Oui, je parle bien légalement. Oui, oui. On ferait peser le poids financier de la perte du téléchargement et en se basant sur d'hypothétiques profits des FAI, on parle beaucoup de profits des fournisseurs d'accès, on ferait peser donc le poids financier sur les fournisseurs d'accès.
Voilà.
Ça, vous êtes tous d'accord ?
Non. Désolé.
Je vous écoute.
Donc le point de vue de la NURPA sur les licences globales, c'est que déjà, en tout premier, il faut faire remarquer que c'est une initiative qui, on va dire, va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle tente de rémunérer les artistes sans passer par une répression, sans passer par un filtrage ni un fichage des utilisateurs. Cependant, on a trois très gros problèmes avec cette proposition qui, de notre point de vue, la rend inefficace et peu raisonnable. Tout d'abord, comme on l'a dit, elle fera peser la soi-disant perte des majors sur les fonctions d'accès à Internet. Alors, c'est une décision assez stratégique du fait qu'en France, le problème qui s'est posé, c'est qu'on s'acharnait sur les utilisateurs et sur le public. Et beaucoup d'études, entre autres une de l'IFPI qui tentait de prouver le contraire, mais malheureusement son étude a prouvé le contraire de ses positions, qui mettent en évidence qu'au final, ce qu'on appelle ici les pirates, c'est-à-dire les spectateurs, les gens qui consomment la musique, ceux qui partagent le plus de musique en ligne, ce qu'on appelle ici illégalement, sont au final les meilleurs clients, ceux qui dépensent le plus d'argent, les meilleurs clients d'iTunes. Ça a été entre autres mis en évidence par l'ancien CEO de Google qui a travaillé à l'EMI, donc un major américain, qui déclarait que selon les chiffres de l'EMI, qui bien sûr ne les a pas publiquement, les meilleurs clients d'iTunes sont ceux qui partagent le plus de fichiers. Et donc, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Et donc, en France, on s'acharnait beaucoup sur les utilisateurs, mais ici en Belgique, on a au moins eu la décence de se rendre compte que c'était pas un bon calcul de s'attaquer à son propre public. Et donc, on a décidé de remettre ça sur le dos des fournisseurs d'accès Internet qui, en Belgique, ont une très mauvaise presse et très mauvaise réputation pour plein de raisons historiques. Mais le problème, c'est que cette taxe va décourager les fournisseurs d'accès Internet à donner des offres plus intéressantes. On va encore aggraver la situation de l'Internet en Belgique, car cette taxe, il ne faut pas imaginer qu'à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, elle ne va pas être répercutée sur l'utilisateur.
Sur l'utilisateur. Alors ça, on pourra peut-être parler de l'accès Internet et de l'égalité de l'accès Internet pour tous.
Ensuite, d'autres gros problèmes qu'à cette licence globale, plus dans son application, mais dans son but même, c'est-à-dire qui est de rémunérer les artistes, c'est que pour rémunérer les artistes, elle se basera sur une sorte de sondage qui aura une précision très limitée. Leur but est de ne pas faire de fichage, donc de ne pas vérifier tout ce que tout le monde écoute, tout ce que tout le monde fait, ce qui est techniquement impossible. Voilà. Mais donc, ils veulent remplacer ça par une méthode plutôt bancale de sondage où soi-même, on doit noter tout ce qu'on écoute pendant un mois et qui n'aura pas, déjà, pas la précision suffisante, mais qui, en plus, va encore exacerber le problème de surreprésentation des grands artistes d'outre-mer et de sous-représentation des artistes belges qui, au final, ne trouveront pas leur compte, qui passeront dans l'impression et la marge d'erreur du sondage.
Alors ce qui est en cause là, c'est la répartition des droits, donc Isabelle Schmitt.
J'ai juste encore quelque chose que je voudrais rajouter donc à propos donc de la licence globale, c'est que il faut d'abord savoir qu'il y a une différence donc entre la position de la SABEM et celle de la licence globale, c'est que la licence en fait globale porte à la fois donc sur le download, l'upload, mais aussi donc en fait sur le transit dans les réseaux, tandis que la proposition de la SABEM ne concerne en fait que le transit en fait des œuvres sur Internet. Par ailleurs, il faut savoir aussi donc que la licence globale, selon donc nous, rendrait donc licite n'importe quelle pratique de téléchargement et ça reviendrait donc quelque part donc à effacer donc en quelque sorte la frontière donc entre le légal donc et l'illégal. Par ailleurs aussi donc ça porterait donc quelque part aussi préjudice au marché de l'offre légale. Il faut savoir qu'on a des contrats donc avec des plateformes de téléchargement légales comme iTunes, Proximus et encore d'autres. Et donc on voudrait conserver évidemment donc ces contrats donc et encourager donc aussi donc le développement de l'offre légale. Et ensuite aussi donc à partir du moment où c'est donc en fait l'État qui tarifie, donc c'est le roi qui fixe les tarifs, ça veut dire que c'est l'auteur qui perd la main de la mise à prix donc en fait de ses œuvres. Ça veut dire qu'on porte atteinte quelque part donc au droit exclusif de l'auteur, c'est-à-dire donc le droit de l'auteur d'autoriser, d'interdire donc l'utilisation de son œuvre, mais aussi de le tarifier.
Et au final, Isabelle Schmitt, la position défendue par la SABAM, elle n'est pas très éloignée de ce qui a été voté en France avec Hadopi. C'est d'une certaine manière, si on caricature un peu, c'est un peu répression quand même, non ?
Non, disons qu'en fait, nous, notre but, évidemment, c'est pas de persécuter le petit downloader dans sa chambre. Nous, on préfère donc en fait une meilleure une répartition plus équilibrée des bénéfices entre les grands acteurs et les plus petits donc acteurs comme les créateurs.
Et comment on fait la part des choses entre le petit downloader dans sa chambre et le gros downloader ? Il y a un moyen techniquement aujourd'hui ?
Oui, je pense, oui.
Je contredirais ça assez formellement. Techniquement, il n'y a pas moyen, à moins de filquer tous les utilisateurs au niveau de leur ordinateur, il n'est pas possible de déterminer qui a téléchargé quoi, qui a consommé quoi, à moins qu'il le dise lui-même. Est-ce qu'on me permet de revenir sur un point très important sur lequel on aurait dû commencer, en fait? C'est-à-dire qu'on parle de solutions aux problèmes, on parle de lois, on parle de préjudices, mais on n'a pas abordé la question du préjudice en lui-même. C'est-à-dire que je vais réagir à plusieurs choses qui sont dites plus tôt. On a parlé de crise du disque, et je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il y a une crise du disque. Le mot sur lequel j'insiste dans cette phrase, c'est le mot « disque ». C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu la crise du VHS, on est passé au DVD. Plutôt, il y a eu la crise du phonographe, on est passé à autre chose. Et à chaque fois, l'industrie prétendait qu'elle allait mourir, comme le morceau qui dit que la vidéo va tuer les stars de la radio. Mais au final, ça a toujours été un déplacement. Le problème qui se pose maintenant, et ce qui pose tellement de polémiques, c'est que là où avant, les constructeurs de VHS ont pu se reconvertir pour la DVD, avec la dématérialisation des œuvres, on passe du DVD et du Blu-ray à rien. Au final, ces industries ne pourront plus garder le monopole de la distribution, et elles ont acquis tellement de pouvoir parce qu'elles étaient le seul moyen pour toute manière, tout support artistique d'exister et de se répandre. Elles ont acquis un monopole tellement grand qu'elles ont actuellement aujourd'hui le pouvoir de freiner l'évolution des médias et de la diffusion des œuvres sur Internet. Et c'est pour ça que tout se bloque et qu'on a actuellement 10 ans de retard sur ce qu'Internet a apporté finalement.
Enfin, on constate quand même qu'il y a une diminution sensible de l'achat de formats d'achats musicaux
matériel, oui, c'est ça, globaux de l'industrie de la musique enregistrée. On va parler de musique enregistrée, même quand ils incluent la part dématérialisée, c'est une chute globale. Je pense que je sais pas exactement sur les chiffres que citait la SABAM, mais la vente de musique dématérialisée par les deux géants, hein, que sont iTunes et puis numéro 2, mais très très loin derrière, Amazon, ne comble absolument pas les pertes de l'industrie.
Il y a deux problèmes avec ce chiffre, en fait. Le tout premier est que on nous parle d'un côté d'une crise de l'industrie, et de l'autre côté, on nous affiche des ventes records, des bénéfices records de l'industrie du film, par exemple, qui se dit menacée de mort.
On va s'en tenir à la musique ici.
D'accord.
Parce que sinon, on va partir dans tous les sens.
D'accord, mais c'est la même chose. Et au final, les chiffres qu'on cite concernent les majors, concernent iTunes.
Bah, on discutait, YouTube, nous, avec des artistes ici présents sur le festival. On peut citer La Phase encore hier, Chaka Ponk vendredi, qui nous disaient tous qu'ils étaient en do it yourself parce que leur label les avait jetés, qui n'étaient pas forcément
justement,
des majors.
C'est à ça que je veux en venir.
Je termine, qui n'étaient pas forcément des majors, qui étaient des petits labels et qui ont coulé. On se souvient que le label Dinetones a quand même coulé, donc c'est pas étranger non plus à cette crise du disque. On sait très bien que les petits labels ont trinqué, François.
À tout le monde. Tout le monde a trinqué, et c'est pas une question de gros labels et petits labels. Les gros labels survivent mieux parce qu'ils ont plus de ressources, et ils avaient une caisse de guerre bien plus remplie que les autres. Mais oui, tous les mois, on apprend la disparition d'un petit label qu'on aimait beaucoup, qui faisait des petites productions de façon très artisanale et qui aujourd'hui n'y arrive plus. Les disques ne se vendent plus, grosso modo, qu'à la fin des concerts. Et puis, bah, les magasins ferment un à un. Et voilà, c'est une évidence. Alors, faut pas pleurer, effectivement, on va pas verser de grosses larmes sur la mort du disque. Le disque continuera, il y aura encore des CD, il y aura encore des vinyles. Bon, les cassettes, faut pas exagérer, c'était même un peu fini. Mais il y aura encore des CD, il y aura encore des vinyles, mais ils ne se vendront plus qu'à la fin des concerts, et ils ne permettront absolument pas à un artiste de gagner sa vie à la fin de l'année.
Alors François, j'avais une question par rapport à ce qu'on a entendu de la part d'Isabelle Schmitt et de Daniel Faucon pour la NURPA et la SABAM. J'entends tout à l'heure que les pirates découvrent aussi de la musique et vont acheter cette musique.
Mondomix
qui met en ligne des MP3 et qui les vend. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que, en gros, vous êtes pour la piraterie?
Non, alors on n'est pas pour la piraterie. On vend des fichiers MP3 légaux, donc on n'est pas pour la piraterie. Mais c'est une évidence que de toute façon, je m'étonne toujours que cette donnée étonne les gens. Que les gens qui téléchargent le plus sont ceux qui achètent le plus également. Mais c'est simplement les maniaques de musique. On sait bien que sur la population, sur une population quelle qu'elle soit, il y a une toute petite minorité de maniaques qui se réveillent le matin en se demandant quel disque ils vont mettre pour commencer la journée, et qui se couchent le soir en se disant quel disque je mets pour avant d'aller au lit, et qui ne pensent quasiment qu'à ça. Et puis il y a une énorme majorité de gens qui se contentent de ce qu'ils écoutent à la radio et qui en sont très contents et qui n'achètent quasiment rien. Donc effectivement, cette petite minorité de maniaques continue d'acheter probablement encore des CD, voire des vinyles, et puis télécharge illégalement. C'est bon, on les connaît tous, ils sont autour de la table, les maniaques en question. Donc.
Alors, je vous propose qu'on discute ensuite de ces nouvelles formes de diffusion qu'on peut imaginer. On va en parler tout de suite après cette petite pause musicale. Je vais ouvrir une grosse parenthèse avant la pause musicale. Je voudrais juste attirer l'attention sur la SABAM, puisque vous la représentez, Isabelle Schmitt, sur le fait que la pause musicale va vous être proposée en licence libre, puisqu'on a un gros problème, nous, ici. Je vous en fait état, comme ça vous pourrez relayer auprès de votre institution. Nous, on est la radio éphémère du festival Esperanza, qui est un festival de découverte, qui incite les gens à écouter autre chose que ce qu'on entend dans des radios, de découvrir d'autres groupes, pas forcément les plus connus. On met en ligne des podcasts qui sont disponibles, parce qu'on sait très bien que les gens qui en fait écoutent cette radio sont forcément et le plus souvent dans ce festival. Il y en a d'autres, hein, mais et quand ils rentrent chez eux, ils ont envie de réécouter cette radio. Et que, on peut pas mettre les podcasts parce que le schéma économique que nous propose la SABAM au podcast ne permet pas au festival de payer autant alors qu'on promotionne ces artistes qui passent eux-mêmes et qui sont aussi rémunérés par la SABAM dans leur live. Il y a plusieurs strates de rémunération pour la SABAM et donc on trouve ça fort dommage. Donc on va dire symbolique, on va vous passer une petite musique en licence libre. Je vous laisserai réagir après la pause musicale que nous propose Ludo.
Oui, je vous propose une toute belle voix féminine, la voix de Hilly Rose dans le groupe Anitech. Elle vient de Morristown aux États-Unis et elle vous propose donc un morceau intitulé Broken.
Et j'ajoute qu'on le fait pas par défaut, sûrement cet artiste a le mérite d'exister.
Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut retrouver ses œuvres?
On va en discuter juste après. D'accord. Daniel Faucon, si vous permettez.
Voilà donc Anitech, le groupe Anitech avec la voix de Hilly Rose.
Et pour répondre à la question que posait Daniel Faucon, pour être complet.
Oui, donc ceci, ça a été trouvé sur Diamendo.
Ah.
Voilà. Justement, ben, on parlait un petit peu de la problématique du net, que ce sont des grosses boîtes qui se réapproprient maintenant finalement le marché. Il y a aussi des grosses boîtes en libre, comme Jamendo. C'est vraiment une très très grosse boîte. Il faut savoir qu'il y a 40 000 albums déposés sur...
C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'albums que c'est une grosse boîte, en fait, je pense.
Oui, c'est pas une grosse boîte dans le sens où elle ne génère pas de bénéfices,
voilà,
bien
c'est
sûr.
Ça.
Oui, mais c'est une grosse plateforme, bien sûr. C'est une très grande plateforme et qui aide énormément les artistes à vivre. Il faut savoir que c'est une visibilité énorme, Jamendo.
On va discuter de Jamendo dans deux petites minutes. Oui. Je vais juste redonner la parole à Isabelle Schmitt de la SABAM pour qu'elle nous réponde et en fait pas sur ce que je soulevais comme problème auquel on était confronté ici dans la radio, sur ce problème de podcast payant dans la durée, qui est à ce rythme-là, je pense que vous allez racheter d'autres sociétés, hein, je vous le dis. Si tout le monde met en ligne et garde son podcast, vu les tarifs que vous pratiquez, ce sera plus tenable.
Donc voilà, malheureusement, moi je ne suis pas une opérationnelle, donc je vous propose en fait de relayer la question donc auprès de la spécialiste de la SABAM et on vous enverra donc la réponse sans problème.
Très bien. Je voulais qu'on aborde la question de la diffusion. Oui, vous vouliez réagir aussi par rapport à un truc en première partie.
Oui, allez-y. Tout à fait. Donc voilà, en fait, vous aviez parlé donc du spectacle vivant, et donc je souhaitais donc effectivement donc expliquer que les revenus donc qui proviennent donc du spectacle vivant ne sont pas à même de pallier donc la chute en fait du marché physique. Ça représente, enfin, les revenus donc qui découlent du spectacle vivant représentent vraiment donc une goutte d'eau, sont vraiment donc, je veux dire, inférieurs. Donc on parle pas du tout dans la même proportion de chiffres en fait. À ce niveau-là. Et puis aussi, donc, on a observé donc, dans nos chiffres de perception qu'il y a un glissement donc, en fait, des petits festivals donc, vers les grandes enseignes. Et donc, à la limite, ceux donc, qu'on pourrait dire donc, qui trouveraient donc, une certaine compensation, ce seraient donc, encore donc, les grands noms, enfin, je veux dire, les grands noms de festivals. Donc là, en fait, dire en fait, que le spectacle vivant donc, pallie donc, à la chute du marché physique, ça, c'est vraiment pas tenable. Et puis alors, il y a encore quelque chose que je souhaitais dire donc, à propos de l'impact en fait, de la crise du disque sur les petits labels donc, et aussi donc, les labels professionnels. C'est que concrètement, donc, on perçoit donc, beaucoup moins donc, pour les petits labels, donc, pour les grands labels donc, à la SABAM. On a vu donc, entre 2002 donc, et 2010 une baisse donc, en fait, des revenus, donc, de la perception donc, en tout cas donc, au niveau des petits labels, donc, ce qu'on appelle donc, le pressage, de 70%, ce qui est quand même très très important. Et au niveau des labels professionnels, ce qu'on appelle donc, les perceptions non contractuelles, donc, ce sont donc, en fait, des perceptions donc, qui sont issues des producteurs donc, en fait, professionnels, donc, des indépendants, mais aussi de ce qu'on appelle le central licensing, c'est-à-dire des perceptions donc, qui proviennent donc, de nos sociétés sœurs. Et là, donc, on se retrouve face à une perte aussi donc, de 53 et 54%. Donc, c'est très important.
On comprend qu'il y a beaucoup de revenus qui sont perdus depuis ces dernières années, que c'est en chute continuelle. Est-ce que, justement, vous avez des réponses pour essayer quand même d'aider les petits artistes et les petits labels? Est-ce que la SABAM est attentive à ce...
Tout à fait. Il faut savoir, donc, en fait, la SABAM, donc, elle investit énormément donc, d'argent donc, dans des projets culturels. Donc au soutien donc, des petits artistes, mais aussi des festivals. On a donné donc, plus ou moins 600 000 euros donc, en 2010 donc, pour ce type d'action.
Sur un chiffre d'affaires de combien, la SABAM ?
200 millions d'euros.
D'accord, donc 600 000 sur 200 millions.
Oui.
Okay. Et comment vous choisissez les festivals? Comment vous réussissez à dire ça, c'est un festival d'une certaine manière qui aide la création, qui aide les petits artistes? Ça, c'est un gros festival qui finalement ne...
Ça, c'est quelque chose qui fait l'objet donc de discussions donc internes aussi donc au niveau du conseil d'administration, etc. Donc c'est décidé donc par les artistes eux-mêmes.
Est-ce que Jamendo a reçu de l'argent de votre part?
Pardon?
Est-ce que les plateformes comme Jamendo ont reçu de l'argent de votre part?
Ah, ça, je peux pas vous répondre comme ça, Jean-Luc.
Je suis pas sûr qu'il soit de droit belge.
Mais les artistes belges peuvent s'y produire et peuvent se faire connaître grâce à ces plateformes.
On sent bien que ce qui est autour de la table, ce qui est en train de glisser, c'est le problème de la perception des droits. De toute façon, ce problème se pose aussi à partir du moment où on parle de licence globale. Comment on va partager, en gros, le magot que va, si cette loi aboutit, hein, parce qu'elle n'est pas encore en place, que vont verser les fournisseurs d'accès à Internet. Donc je vous refais pas l'histoire de la licence globale, mais en gros, cette petite compensation que serait versée par les fournisseurs d'accès, elle atterrit dans les caisses de qui ?
Des intermédiaires, des labels de la SABAM, en espérant qu'ils le reversent aux artistes, a priori.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, je pense que ça, ce n'est pas du tout donc, en fait, la vérité. Donc, nous, ce qu'on demande donc, aux fournisseurs d'accès...
Enfin, c'est ce que vous proposez, hein, chacun de votre côté. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait.
C'est un pourcentage donc, en fait, sur leur chiffre d'affaires, donc, au moyen donc, en fait, de leurs abonnements mensuels donc, ou annuels. Et peut-être aussi, donc, ce qu'on demande, c'est donc, un abaissement de la TVA, donc, en fait, et aussi donc, un pourcentage donc, sur la TVA. Voilà.
Est-ce que cet argent arrive dans les poches des artistes, au final? C'est ça la question.
Bien sûr.
Donc vous ne percevez pas cet argent.
Vous savez, donc la SABEM est une société transparente. On est contrôlé donc par le ministère de l'économie. On dispose de plusieurs contrôles internes donc sur nos activités donc et sur nos procédures. Je veux dire, on ne fait pas les choses n'importe comment. Hein.
La BASTA n'est pas très d'accord avec ce point de vue en fait. Avec son dernier documentaire où il met en évidence que la BASTA en fait,
c'est qu'on peut développer juste les termes comme ça.
C'est une organisation donc en fait flamande dans les médias donc qui ont fait une petite blague à la SABEM, ainsi donc à d'autres entreprises comme Fortis ou Dexia, etc. Et donc voilà, donc ils ont posé des questions.
Vous expliquez la blague.
Mais disons qu'ils sont venus donc à la SABEM donc en fait pour demander donc en fait certains donc enfin remplir des déclarations d'affiliation et ils ont donné donc en fait des noms donc en fait qui s'apparentaient donc à des noms qui se trouvaient dans notre répertoire mais qui en définitive n'étaient pas des noms et qui existaient donc en réalité selon donc ça a fait une polémique mais la vérité des choses, c'est que bon, ça s'est rentré dans l'ordre, parce qu'effectivement, on avait des artistes qui s'appelaient Kenwood et Suzy One, etc. Donc, enfin, je veux dire, on leur a répondu, et donc ça a été réglé.
Ludovic, toi, le modèle que tu défends, c'est celui de la musique libre. Pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est quoi aujourd'hui de la musique libre? Et que fait un groupe pour produire de la musique qui est d'une certaine manière gratuite sur Internet, c'est ça?
Libre ne dit pas gratuit, hein, ceci.
Ouais, oui, libre, ouais. On ne veut pas dire gratuit, tout à fait. Et il y a des gens qui en vivent, hein, même avec des licences libres. Mais pour généraliser un petit peu la licence libre, il y en a différents types, mais de manière générale, c'est la diffusion, en tout cas, qui est libre et qui est sans dédouaner des taxes, donc, enfin, des droits d'auteur en diffusion. D'une manière générale, dans toutes les licences, dans toutes les différentes licences, ce qui est obligatoire dans la diffusion, c'est de citer l'artiste et de citer le titre de l'œuvre. Et ça, donc, ça permet justement de se faire connaître, on va dire, mieux, puisque on ne se retrouve pas dans des playlists automatiques, notamment. On est toujours obligé d'avoir la référence, voilà.
Absolument, c'est un point que je trouve important à soulever, oui, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les licences libres, la musique libre, ne fait pas disparaître la notion de parenté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépossédé de votre musique parce qu'elle est libre.
Comment on gagne de l'argent derrière? Comment on peut espérer vivre de la musique avec ce genre de système?
Mais première chose, c'est d'abord se faire connaître. Et je pense que tout artiste doit d'abord se faire connaître. Donc il y a une fenêtre ici pour être diffusé. Comme on se rend compte justement que pas mal, on parle ici de la pause musicale qu'on vient de placer ici à Radio Esperanza. Il y a d'autres radios, il y a des lieux publics qui sont intéressés par, bien sûr, ne pas payer la SABAM et acquérir donc des musiques et des playlists en licence libre. Donc ça permet une diffusion, ça recrée un marché qui n'est pas du tout fermé en termes de diffusion. Après, une fois qu'on se fait connaître, les concerts, bien sûr, hein, la plupart des artistes vivent des concerts aussi, il faut bien le rappeler.
Juste rappeler pour qu'on comprenne bien, quand tu dis pas payer la SABAM, pourquoi dans la musique libre la SABAM n'est pas intéressée? Enfin, n'est pas concernée par les musiques libres.
On
n'est pas affilié à la SABAM en fait, hein, oui, on sort de ce schéma-là.
Quand on prend une licence libre, telle la Creative Commons ou Art Libre, on n'a plus à payer ses droits d'auteur. Donc,
ça veut dire que la licence libre, c'est un peu la mort de la SABAM ou des sociétés de droits d'auteur de manière générale ou pas? Je ne sais pas, Isabelle Schmitt, comment vous apprenez ça?
Disons que je pense qu'il y a aussi, dans quelque part, donc, une différence de contenu, donc aussi donc, musical donc, à ce niveau-là. Donc, il y a des répertoires donc, en fait, plus spécifiques et d'autres qui sont plus populaire et je pense que le public en fait je veux dire de ces contenus donc en fait qui sont plus spécifiques sont de toute façon donc assez loyaux.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le contenu.
François aussi qui hoche la tête, donc chacun son tour.
Il faut aller voir Diamendo, rien que pour se faire une idée. Le contenu est divers et varié. Il y a absolument de tout. On retrouve des musiques aussi bien
Isabelle Schmitt, vous êtes déjà allé voir Diamendo ou pas du tout?
Non.
Jamais.
Moi, c'est là que je fais mes courses.
Ok. Bon, maintenant, il y a des petites plateformes très spécifiques comme Free Music Archive qui proposent, alors là, des musiques beaucoup plus pointues, etc., et qui ont leurs fidèles. Mais une plateforme comme Diamendo ou même Dogmazic propose du tout venant, hein, pour tout le monde.
On voit autour de la table, d'une certaine manière, deux modèles. Un modèle avec des droits d'auteur, un modèle sans droits d'auteur sur Internet. François Moger.
Parce que tu posais la question, je vais te répondre quand même jusqu'au bout à la question comment font-ils pour en vivre. L'exemple de Diamendo, c'est vraiment une interface qui permet donc de rencontrer après ces artistes et il propose à travers cette interface, par exemple, un artiste peut créer justement des jingles radio ou des fonds sonores, etc. Et là, il commence donc à en vivre.
Donc, ou les concerts, etc.
À partir du moment où on diffuse, bon, c'est gratuit, effectivement, on ne doit rien payer, mais à partir du moment où on utilise et on commercialise un produit, forcément, là, ça commence à, c'est payant, mais on s'arrange avec l'artiste à chaque fois. Voilà.
On voit donc ces deux modèles, d'un côté avec des droits d'auteur, un autre modèle sans droits d'auteur. Est-ce que tu crois, toi, François Mauger, qu'on peut se passer de sociétés comme la SABAM ou la SACEM aujourd'hui avec Internet?
Alors, on peut s'en passer, mais pas pour tout faire. Et j'aime beaucoup les sociétés d'auteurs. J'aime beaucoup le principe des sociétés d'auteurs. J'aime pas toujours leurs pratiques, mais j'aime beaucoup le principe. Le principe, c'est que ce sont des auteurs qui se réunissent pour faire défendre leurs droits de façon collective. Et ça me semble très important. Parce que l'auteur belge, certes, qui va donner un titre en Creative Commons à Jamendo, etc., va avoir quand même beaucoup de difficultés à faire respecter ses droits s'il y a détournement de ses droits au Mexique.
C'est-à-dire que toi, la licence libre, t'y crois pas vraiment, quoi?
Il faut que je réponde par oui ou par non?
Vas-y, développe.
J'y crois pas vraiment, non. Effectivement, j'y crois pour un premier palier, peut-être, effectivement, pour se faire un nom. Mais au-delà de ça, effectivement, l'idée de se regrouper pour faire défendre ses droits, comme dans toutes les corporations, tous les métiers, tout le monde se regroupe pour défendre ses droits. Je veux dire, c'est la société, c'est comme ça que ça fonctionne.
Sur la différence de catalogue qu'il y aurait entre Jamendo et la SABAM,
c'est légèrement méprisant.
Oui.
Et c'est une méconnaissance de...
J'attire juste l'attention sur Isabelle Schmitt que Bomba Estéreo a d'abord été pour les mêmes titres sur Jamendo, puis ensuite dans le copyright, quoi. Hein, donc chez vous, donc il n'y a pas forcément une différence si claire que ça.
Non, tout à fait.
Pour nuancer mes propos, parce qu'actuellement ça devient nécessaire, le jour où la SABAM défend les droits des auteurs qui se produisent au Creative Commons, le jour où la SABAM fait un procès à quelqu'un qui fait une infraction à une licence Creative Commons, je fais un don à la SABAM. Je précise.
Mais ce sont deux... Alors il faut en même temps être clair, ce sont deux systèmes totalement incompatibles. Je veux dire, en tout cas pour la SACEM en France, j'en ai discuté avec des responsables de la SACEM qui m'ont clairement dit, une personne qui est chez nous, qui s'est inscrite comme ne peut pas donner en Creative Commons. Quand elle nous donne un mandat, une mission qui est de représenter ses droits, de les défendre, et ce qui me semble un très beau mandat et une très belle mission, il demande à cette personne de donner l'intégralité des œuvres. Ça fait partie des règles du jeu. Alors après, j'ai beaucoup de griefs, beaucoup de choses à reprocher à la SACEM, une opacité épouvantable, une surreprésentation des gros catalogues par rapport aux petits. Il y a beaucoup de choses à faire dans la SACEM. Mais le principe de se réunir pour défendre ses droits, je pense que c'est un principe qu'on défend dans beaucoup d'autres domaines, et je pense que c'est un principe démocratique indiscutable.
Oui, le problème, tu viens de le dire, c'est effectivement l'exclusivité. Il y a d'autres pays comme le Canada où on peut déposer une partie de son répertoire en licence libre et protéger le reste. Pour justement, tu parlais du premier pas pour un artiste de se faire connaître. C'est clair que dans la licence libre va lui permettre ça. Maintenant, il n'est pas obligé, d'avoir tout son répertoire en licence libre. Je pense que c'est deux démarches qui peuvent aller, qui peuvent très bien aller ensemble. Donc,
pour approfondir avec un exemple des licences libres, un exemple que ici très malheureusement en Europe on ne connaît pas du tout, même moi je l'ai appris en lisant un blog, c'est le cas de Mr. Valère. Est-ce que quelqu'un connaît Mr. Valère ici?
Pas du tout.
Dommage. C'est en fait un artiste canadien qui a décidé de se produire sous licence Creative Commons, c'est-à-dire qu'il a pris ses décisions au départ et il s'est dit qu'est-ce que je peux faire avec ça pour gagner ma vie. Il a commencé par distribuer sa musique donc librement, en comptant sur le fait qu'une fois que tout le monde connaît ma musique, même si une personne sur 10 me donne de l'argent ou achète mon album, j'aurais probablement plus d'argent que si le peu de personnes qui peuvent acheter le CD le payent à 20€. Bon, il a fait grandir sa notoriété comme ça, et un jour il a sorti son nouvel album, à la fois librement en Creative Commons, donc gratuitement téléchargeable sur son site, et dans les produits sur CD, en vente dans les bacs, dans les magasins. Et au final, il est resté, je sais plus si c'est 2 semaines, en première position du top canadien ou québécois, je sais plus exactement, et il s'est rendu compte qu'au final, il a gagné autant d'argent des dons que les gens ont fait en téléchargeant librement son œuvre sur son site et en faisant un don a posteriori, que par les ventes de CD. C'est-à-dire que les gens avaient le choix entre acheter le CD et télécharger gratuitement, ou peut-être d'abord télécharger gratuitement et acheter le CD. Et il y a eu exactement la même somme qui est sortie des deux côtés, du schéma totalement libre et du schéma vente, même si c'était en Creative Commons.
Je vois la main d'Isabelle Schmitt de la SABAM qui se lève.
Voilà, donc en fait, je voulais aussi dire, donc il y a aussi toute une étape aussi donc dans la carrière d'un artiste, donc ce qu'il aura besoin donc en fait au début, donc aussi donc pour s'affirmer donc sur le marché donc et par la suite est différent. Donc c'est vrai que les licences livres donc en début de carrière etc, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais par la suite, je veux dire, quelqu'un qui veut se consacrer entièrement à son art aura peut-être plus difficile donc aussi de continuer donc sur cette voie là et aura certainement donc tendance donc à rejoindre donc en fait les sociétés de gestion collective de droits d'auteur.
Ça, je laisse les artistes décider aussi par eux-mêmes. Je voudrais juste qu'on termine parce que l'heure tourne et qu'il faut mettre fin à un moment donné à toute discussion. Mais elle peut continuer hors micro, elle peut aussi continuer dans la tête des gens qui nous écoutent. Surtout que c'est justement ce que je veux aborder. Je discutais hier avec notre technicien David qui est là-bas derrière et qui m'a fait une remarque tout à fait pertinente qui m'a trotté dans la tête toute la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie de faire peser, de responsabiliser à la fois le consommateur d'Internet qu'on est tous ou le gestionnaire de la connexion que sont les fournisseurs d'accès alors qu'aujourd'hui, un iPod, pour le remplir légalement en téléchargement légal, à grosso modo en moyenne 1 euro le titre, me disait-il hier, David, il faut avoir dans la poche sur son compte bancaire une Ferrari d'occasion, enfin la somme d'une Ferrari d'occasion. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie dans ce schéma-là où on a des gros instruments qui peuvent contenir énormément de contenu, mais en fait on s'aperçoit que peu de personnes ont les moyens de le remplir légalement. François.
C'est comme les voitures qui peuvent rouler jusqu'à 190 alors que les autoroutes sont limitées à 130. C'est une évidence. C'est une évidence que il faudrait avoir un débat vraiment honnête et remettre, faire un graphique, hein, mettre à plat sur la table, qui gagne quoi depuis le début des années 2000 sur Internet et également sur le développement des outils qui vont sur Internet. Parce que je veux dire, généralement, les gens consacrent 20 à 50 fois plus pour l'appareil qui va gober puis diffuser la musique que pour ce qu'ils mettent dedans.
Pour son contenu, quoi.
Que pour son contenu. Je pense que le rapport pourrait être différent. Non, ça c'est évident qu'il y a une hypocrisie. Il faudrait avoir un vrai débat, vraiment honnête, qui n'a pas eu lieu en France et qui n'aura probablement pas lieu en France pendant un bon bout de temps, sur qui gagne quoi dans toutes ces activités culturelles et extra-culturelles qui sont conjointes, et voir effectivement comment est-ce qu'on pourrait répartir un petit peu mieux le gâteau qui, pour l'instant, il n'y a vraiment que des miettes qui tombent dans la poche des artistes.
Isabelle Schmitt, sur le contenant et le contenu, c'est pas un peu...
Mais disons qu'en fait,
inégalitaire.
Pour la SABAM, en fait, c'est qu'il y a deux pans de solution. C'est que d'abord, il y a un pan de solution donc, qui concerne plus donc, les gros acteurs, donc, comme on l'a dit, donc, une responsabilisation financière donc, des fournisseurs d'accès. Mais parallèlement, ça n'empêche pas non plus donc, de conscientiser par différentes voies donc, les internautes, le consommateur, donc, de manière générale, par la voie de l'enseignement ou d'autres choses.
Mais je prends mon cas, par exemple, je suis un maniaque, hein, je suis dans la catégorie dont parlait François tout à l'heure, je gobe deux albums par jour en moyenne. Comment je trouve l'argent que je n'ai pas pour acheter ces deux albums par jour?
Je pense qu'il y a quand même des plateformes de téléchargement légales donc, qui offrent donc, en fait, certaines possibilités donc, intéressantes.
À 1 euro le titre? Non, je vous renvoie mon quotidien là, pour le coup.
Peut-être qu'il faudrait te faire un peu soigner.
Oui, peut-être, déjà. Il faut commencer peut-être par ça.
Je vais vous étonner à propos de la question de ce que vous avez appelé l'hypocrisie du contenant et du contenu. Je ne pense pas qu'il y ait d'hypocrisie pour la simple raison que dans ma poche, mon Android avec ses 8 gigas est plein de musique. Mes lecteurs MP3 sont pleins de musique. Mon disque dur commence à être plein aussi. Mais ça ne m'a rien coûté. J'ai calculé récemment que j'avais entre 15 et 20 gigas de musique sous Creative Commons que j'écoute régulièrement.
J'ai eu peur là, 2 secondes.
Non,
j'ai cru qu'il y avait une dénonciation en direct.
Non, mais j'ai quoi, 2% de ma musique qui est sous copyright, et c'est des trucs que j'ai acheté quand j'étais jeune, mais maintenant j'écoute quasiment que du Creative Commons, et contrairement à ce que les gens croient, on trouve souvent des musiques plus intéressantes et plus innovantes dans Creative Commons, mais bon, c'est un autre débat. Et donc pour répondre à ta question, mes disques durs sont pleins à craquer de musique, mais de musique qui ne m'a pas coûté 1 euro le morceau, Et pour répondre à ta question du fait d'avoir assez de revenus, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent et je suis réglement ruiné malgré mon argent de poche parce que même si j'ai 20 gigas de musique libre, à chaque fois que j'en ai l'occasion financièrement, je fais un don à mes auteurs. J'ai encore hier fait un don de 35 euros à Alone Place for Dying, qui est un excellent film qui s'autoproduit.
On parle musique ici.
Je répète, j'insiste.
Puisque tu nous dévoiles tout, est-ce que tu peux nous dire combien de coûte ton matériel informatique?
Mais je suis informaticien, j'ai une formation de sciences informatiques, donc forcément, mais je pense que mon ordinateur que j'ai acheté il y a 2 ans m'a coûté 600 euros, 700 euros. Bah, le problème, c'est que les informaticiens tentent de rentabiliser leur machine, donc c'est pas eux qui auront le plus gros coût. Mais bon, c'est...
Et très clairement, c'est pas ça qui empêche les artistes que tu écoutes de vivre de leur musique. Moi, je tiens quand même à revenir là-dessus. Ils font des concerts, c'est pas parce que ils sont pas nécessairement en vente sur le net qu'ils ne peuvent pas vivre de leur art, c'est clair. Il y a un groupe très connu comme Dazimae qui tourne beaucoup et qui sont sur Diamendo aussi en Creative Commons. Voilà, le concert, le live, d'ailleurs, on a reçu les Ogs de Barba qui ont aussi parlé un petit peu de ça, on parlait d'alternatives, on parlait de démarches. Faire des concerts, bien sûr, c'est aussi une des meilleures manières de vivre de sa musique.
La Cour des comptes américaine, en fait, la GAO, est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas une suppression des revenus dans l'industrie musicale, mais un déplacement des ventes de CD vers les produits dérivés, t-shirts, albums collector, etc., et concerts. Donc les artistes qui adaptaient leur business model moins sur la vente de l'œuvre et plus sur les produits dérivés et sur... une sorte de rétribution à l'auditeur, pas forcément sur le droit à accéder à la musique, arriver à se ruer avec des meilleurs revenus.
Oui, on aurait pu parler encore des heures sur ce sujet, sur le déplacement aussi de la crise du disque sur le live. Je pense qu'on a déjà parlé lors des éditions précédentes ici à Esperanza. C'est sûr que, d'ailleurs, Jean-Yves Lafineur en fait état cette année, la surenchère des cachets artistiques dans le live n'est pas non plus étrangère à tout ça. Juste pour vous, en termes de conclusion, je vais pas vous demander de conclure parce que ça servirait à rien et que je pense que le débat va continuer. Il va continuer en tout cas en Belgique, puisque d'après ce que me disait Jackie Moral tout à l'heure au téléphone, il compte revenir en septembre avec une proposition commune avec le MR sur cette licence globale. La NURPA continue, j'imagine, à informer soit ses membres, soit les internautes. Je voudrais juste qu'on rappelle l'adresse de Mondomix.
Mondomix.com, et effectivement, alors parce que j'avais peut-être pas été très clair ou parce que j'ai été présenté juste avant le collègue qui fait la publicité du Creative Commons, nous on vend bêtement des fichiers MP3 à 99 centimes d'euros, comme le fait iTunes et Amazon, avec cette différence, c'est qu'on est assez nostalgique du bon vieux disquaire qui savait nous recommander le bon vieux disque qui était tout au fond de ses bacs, et que nous on fait tout un travail de présentation d'artistes, de musique du monde essentiellement, et de classement par pays, par genre, etc. Enfin, tout un travail un peu pédagogique et un peu journalistique.
Merci beaucoup à tous autour de la table. Ludo, merci. François, Isabelle Schmidt de la SABAM et la NURPA. J'insiste encore, je pense qu'on a beaucoup parlé de responsabilité des artistes, responsabilité des consommateurs, à chacun aussi à réfléchir et à influencer son politique.